franceinter.fr.
Ce que je voudrais vraiment, c'est de faire toute une film, toute une longue métrage, moi comme je suis, avec mes jeans, mes vieilles pulls, mes cheveux n'importe comment, en pyjama, pieds nus dans mon jardin. Enfin, pour une fois qu'on ne me demande pas de mettre des chapeaux, des perruques, des jolies choses. J'aimerais tellement qu'on me filme comme si j'étais transparente, anonyme, comme si j'étais n'importe qui.
Les filles, vous m'entendez?
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez. Une heure tout vous.
Hey, boys! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Une heure tout vous.
We're gonna be fine.
Don't go away, don't.
Allez, action!
Help me! Action, pourquoi faire?
Elle a parfois mélangé l'amour avec le cinéma et lui, avec son amour du cinéma, a rendu tant de films possibles. Une actrice, un producteur, deux passeurs, finalement, ce matin avec nous. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Ni transparente, ni anonyme, mais une délicieuse humilité qui depuis 5 décennies l'a fait douter. Bonjour Jane Birkin.
Bonjour.
Et pourtant, beaucoup d'actrices rêveraient d'une telle filmographie, la vôtre, et très peu d'entre elles réussissent ce cocktail magique à la fois sexy, ingénu, drôle et grave. Alors pour célébrer ce parcours, la Cinémathèque française vous offre cette rétrospective jusqu'au 11 février de Blow Up à Boxys. Lui va vous succéder dans la célèbre institution, un producteur qui a tenu un rôle clé en révélant notamment une décennie morose, les années 90, et en ouvrant la télévision, en l'occurrence Arte, à des réalisateurs tout neufs et à d'autres confirmés comme André Téchiné. Bonjour Pierre Chevalier.
Bonjour.
Cette rétro est impressionnante, on y retrouve notamment Faucon, Ferrand, Berco, Clapier, Chissaco, Mazui et tant d'autres. Et puis nous parlerons des sorties de ce nouveau mercredi dominé par La La Land. Mais nous n'oublierons pas Tempête de Sable, Compte tes blessures, Tous en scène et Lumière avec un point d'exclamation.
Moi, si j'accepte qu'un peintre ou qu'un cinéaste fait mon portrait, je veux bien être déformé. Mais c'est comme avec toi. L'important, c'est l'œil derrière la caméra ou la personne derrière le brosse à peinture. Je m'en fous un peu ce que tu fais avec moi du moment que je sens que tu m'aimes un peu.
Pourquoi tu crois que je t'ai demandé de faire ce film? Parce que tu es belle. Comme la rencontre fortuite sur une table de montage d'un androgyne tonique et d'une Ève en pâte à modeler.
Jane Birkin, vous disiez à l'époque que l'important c'est l'œil derrière la caméra. Gainsbourg, Doyon, Rivette, Varda, Zidi ou Tavernier. Des gens, avez-vous dit, qui avaient de l'ambition pour vous? Pourquoi vous n'en aviez pas au début?
Non. Non, je n'avais pas. J'avais de l'audace et j'avais surtout dépaté les gens qui étaient autour de moi. Ça, je l'avais.
Autant les hommes que les femmes?
Oui.
Oui.
Absolument. Donc, ça, je l'avais, mais... Donc, ça m'a quand même, curieusement, mis sur ce chemin de Blow Up, où John Barry a dit que je n'oserais pas, ou d'aller en France et parler le français alors que je ne parlais pas, pour quand même un homme qui m'a changé la vie, qui était Pierre Grimblat,
oui,
qui m'a choisi pour slogan où je rencontrerais alors le Mad, Bad and Dangerous to Know, Gainsbourg, que je voulais épater aussi. Donc j'ai fait des choses que j'aurais jamais fait si ce n'était pas pour être le personnage idéal pour lui. Donc c'était ma chance qu'il avait dessiné une fille comme moi, c'est-à-dire sans sein, avec un grand bassin, et qu'il m'a emmené au Louvre parce qu'il m'a dit que j'étais comme des cranachs. Donc vite fait, je regardais les cranachs et peut-être les faits, j'étais comme un cranach. Mais ça, c'est un coup de peau quand même de tomber pour quelqu'un que pas seulement les seins, bon, on va faire à 100, mais de carrément préférer ça. Enfin, il exagérait un peu, il avait quand même eu Bardot juste avant. Hein. Mais bon, d'avoir dit qu'il faisait ce dessin-là, c'était une étrange affaire.
Et l'œil, derrière l'œil du cinéaste, c'est le producteur, Pierre Chevalier.
Oui, c'est le producteur ou le coproducteur. Moi, j'étais un coproducteur.
Vous tenez à cette précision, hein?
Oui, je tiens parce que c'est vrai que j'ai été souvent autoritaire dans mon métier, même d'une façon assez drastique. Mais tout de même, c'est le producteur, délégué ou exécutif qui entreprenait l'ouvrage.
Ça veut dire quoi être autoritaire pour un producteur?
Ça veut dire surveiller tout, intervenir au montage, même intervenir avant sur scénario, même un peu avant sur casting. Enfin, c'est une tour de contrôle, quoi, le producteur.
Donc, c'est un emmerdeur, quelque part, oui. pour le cinéaste.
Ah oui. Ça peut l'être, en tout cas.
Et c'est une nécessité.
Ben oui. Il faut avec le réalisateur, il faut vraiment s'inscrire dans une logique d'échange, et d'échange, si possible, presque d'égal à égal, quand même. Parce qu'évidemment, c'est le producteur qui a l'argent et c'est le réalisateur qui a le talent. Alors, il faut que cette équation soit solvable, et si possible, dans les meilleures conditions, et avec l'objectif, comme ça, d'un résultat le plus percutant.
Une BO un peu particulière ce matin, à Cap Appelle-la avec vous, Jane Birkin, dans Jane B par Agnès V.
Si j'ai un point commun avec Marilyn, enfin un tout petit point, c'est à cause d'une chanson qu'elle a chantée divinement, qui s'appelait « My heart belongs to Daddy ». Mon cœur appartient à papa. Et là, Marilyn est devenue toute proche parce que moi aussi, j'aimerais chanter une chanson pour mon papa. If I invite a boy one night to dine on my fine fin and haddie, I just adore him asking for more, but my heart belongs to Daddy. Oh, je m'en souviens pas de toutes les paroles en anglais. Mais je me souviens, la chose que j'avais trouvé drôle, c'est qu'à la fin de la chanson, elle a dit des paroles en français. Tu t'en souviens? Elle disait: mon cœur est à papa. You know the propriétaire. Elle disait les mots en français comme si elle parlait français, ça rendait le tout plus sexy. Les Français ont cette réputation-là.
Jane Birkin, vous avez souffert en vous écoutant, mais pourquoi donc ?
Il y a de quoi. C'est parce que ma voix est trop haute.
En vous écoutant parler, pas en vous écoutant chanter.
Non, chanter, tout va bien.
Oui.
Mais en parlant, est-ce que c'est parce qu'on a peur ? Donc ça monte un peu. J'ai l'impression que certains films... Je crois que les films avec Jacques Doyon, il a fait vachement gaffe. Justement, d'abord, il a pensé, je crois, pour La fille prodigue, il croyait que l'accent, je faisais exprès. Donc, il était horrifié de voir que c'était pas une chose que je maîtrisais du tout, que une ou un pour une chaise, j'avais absolument pas le moindre idée, les deux allaient pour moi. Donc, il a tombé des nues, quand même.
Il paraît qu'il vous disait, pour ce film-là, je veux vous boutonner jusqu'au cou, je veux savoir ce qui se passe dans votre tête et je veux que vous fassiez une crise de nerfs.
Oui. Oui, il voulait que je joue une personne qui avait une dépression nerveuse. Alors, je jouais lui, en fait. Je jouais le personnage, je suis convaincue. Enfin, c'est souvent le cas, hein, mais je crois qu'il avait peut-être une angoisse vis-à-vis de son père, d'avoir été le préféré ou pas. Enfin, c'était une chose, peut-être avec sa mère. En tout cas, il m'a transformée en fille. Enfin, il m'a utilisée en tant que fille. Mais je le défendais son point de vue à lui. Donc, c'était la première fois qu'on me demandait de faire une recherche qui était pour moi intellectuelle, pour laquelle j'ai tombé... hook, line and sinker, comme on dit pour le mettre en scène. Parce que quand on me demande ce que j'avais dans le cerveau, là j'étais tellement épatée, on ne m'avait jamais demandé ça.
Vous disiez, avec cet accent, c'est dur d'incarner autre chose que moi-même. Moi j'ai l'impression que cette fille aussi prodigue, c'est un peu vous par rapport à votre père dans la vraie vie, non ?
Oui, sauf que je n'avais pas ce problème. J'étais le préféré de mon père.
Ah oui.
Et je comprends ce que pour mon frère et pour ma sœur, c'était vraiment compliqué. Il y avait des photos de moi partout dans sa chambre, dans toutes les attitudes, de lui magazine, de tout. Quand j'étais petite, c'était la dernière voix que j'entendais le soir. Et même quand j'avais 40, 50 ans, je touchais son profil tout doucement comme ça, sa bouche. Et puis il disait, ah, you're here. Comment résister à ça?
Jane, est-ce que parfois le metteur en scène peut être un papa aussi? Est-ce que vous avez considéré certains comme des papas, des
Bien
pères?
Sûr, et puis mes partenaires, Piccoli.
Oui.
Piccoli qui rôdait partout dans tout ce que j'ai fait de bon. Dans le, mais c'est vrai, parce que c'est aussi bien pour Chéreau. Je suis vraiment contente dans cette rétrospective qu'ils ont aussi mis les choses pour lesquelles j'étais le plus fière. Parce que la belle noisasse aussi, ouais. Mais la fausse suivante,
la fausse suivante.
Est aussi là.
Oui.
Avec Piccoli, on va vous écouter tout de suite, justement, dans La fille prodigue.
Ah. Je me suis faite anglaise pour te fuir, il me semble. Comme si je ne voulais pas que tu existes. Je ne voulais pas être ta bâtarde. J'aurais voulu être seulement ta fille. Mais je suis revenue en France. Et je me suis faite anglaise pour être comme ma mère, alors. Pour épouser un Français comme elle. Un Français comme toi. Peut-être aussi j'étais jalouse de ma sœur. Quand j'étais petite, je ne comprenais pas. Tu me préférais. Oui. Maintenant, je le crois. Tu me préférais. Je t'attirais plus qu'elle. Mais j'ai l'impression que tu t'en voulais de me préférer.
C'est pas vrai, je vous aimais toutes les deux.
Je parle d'une attirance plus grande. Tu ne me contredis pas avec ta phrase. Ose dire le contraire.
Non, je ne suis pas d'accord.
Et moi, je te dis que si. Si. C'est presque tout ce que je sais de toi. Si. Quand j'étais petite, je ne comprenais pas. Je croyais que tu la préférais.
Là, la voix vous va, Jane.
Oui, 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 juste. Mais oui, heureusement qu'il y a une intervention de Michel. Mais il planait partout hier sur le film de Jacques Rivette, La Belle Noiseuse, oui. Pour le coup. Et Piccoli, mais il était majestueux dans ce film, mais à mourir. Alors, la chance d'avoir fait La Fille Prodigue avec lui, la chance d'avoir fait pas seulement La Fille Prodigue, cette morse ordonnance qu'il rodait aussi.
Ruffio.
Oui. Il m'a été un partenaire, mais générosité.
Mais à partir de quand, de quel film vous vous êtes sentie vraiment actrice?
Je crois que les gens m'ont sentie un peu actrice à partir de Jacques.
Voyons.
Oui. Je crois que j'ai eu mes chances avant. Hein. Et puis après aussi, dans les films en anglais, j'étais parfois peut-être un peu mieux. Dans le film de Tavernier, où j'étais et française et anglaise, mais ça n'a pas marché.
Nostalgie.
Pas marché du tout. Non, j'ai très très envie de le revoir. Bah, le titre était Tarte. Ils auraient dû appeler ça These Foolish Things, ou je ne sais pas, trouver autre chose. Daddy Nostalgie, c'était trop sucré. Mais le film était génial. Mais je crois que probablement, peut-être les personnes qui allaient voir un film de Tavernier et moi et Dirk Bogarde, je pense qu'ils vivaient dans la crainte d'avoir le coup de téléphone que ton père ne va pas bien ou même qu'il ne répond plus. Et on avait beau faire tout le promo en disant mais non, c'est vachement gay, c'est pas du tout pas à propos de la mort. quand même, oui. Les gens sont pas bêtes.
Vous oubliez votre film de comédie, vous êtes une actrice de comédie aussi.
Oui.
C'est ça qui vous a rendu très populaire.
Oui, ça et les interviews. Parfois les interviews vaut tant peut-être que des films.
Vous êtes pour être les interviews.
je crois. La personne qui déconne sur la télévision, etc. C'est pas forcément les gens qui ont vu des films intellectuels ou magnifiques. Ils ont pas été à Cannes et puis probablement même pas les... Peut-être des chansons avec les Carpentiers, beaucoup.
Et Pierre Richard, c'est pas Piccoli, mais c'est quand même un sacré talent aussi.
Pierre Richard et Zidi
ont
lancé d'une manière extravagante. Parce que à Zidi, j'ai lu le scénario et j'ai dit, mais il faut Bardot. Il faut une star. Et il a dit, après ce film, vous serez une star. Et après ce film, j'étais devenue une des personne les plus populaires de la France avec Pierre Richard. Parfois, quand je vais en, je sais pas, en Russie, ils me demandent où est mon mari. Parce que pour eux, c'est Pierre Richard. Et c'est vrai qu'on était vachement populaires. Ma mère disait ça tout le temps aux Anglais. Elle disait, mais elle est pas seulement choquante dans Louis Magazine. Les Français l'adorent. Elle est très, très populaire. Elle fait des comédies. Ah, dit les Anglais, incrédule.
Parce que vous n'avez jamais voulu le scandale. En fait, il y a eu ce petit scandale de vous nu 20 secondes dans Blow Up, la pirate dont, qui a été sifflée en conférence de presse à Cannes.
Oui, mais bon, ça c'était noble.
Oui.
Et fantastique à défendre.
Oui.
Fantastique. Mais c'est vrai que des photos de Louis Magazine, je ne pensais pas que ça dépasserait les Chanel. malheureusement, oui.
La manche, hein, pour les intimes. Et sinon, il y a une dame de cinéma qui s'appelle Agnès Varda qui vous a utilisé, vous, comme Jane Birkin. Est-ce que c'était embarrassant?
Oui. C'était embarrassant, mais je voulais bien. Et puis, je l'avais connue quand j'avais 40 ans. Et je trouvais vraiment que là, je n'étais plus exotique du tout. Et que je pourrais être n'importe qui. C'est vrai que j'avais fait mes airs aussi grâce à Chéron. Parce qu'avant, je ne roulais pas mes airs du tout. Je n'avais pas les airs français. Et je les ai appris, comme j'ai appris tout le texte, avec un coach qui était merveilleux. Et je faisais finalement des airs. Alors... pourquoi je disais ça? Oui, je trouvais que j'étais ordinaire et que elle pouvait m'utiliser pour n'importe quoi, mais c'est pas vrai. Il y avait des choses que vraiment j'étais pas contente du tout. Je voulais pas jouer des danseuses espagnoles et je suis toujours une horreur de ça. Et elle savait très bien, mais c'était bien de jouer le jeu d'aimer pas aimer. Et puis elle a dit une chose très juste. Parce que je bavarde tellement qu'on peut avoir l'impression de vous connaître et j'ai l'impression parfois de voilà que c'est presque vulgaire d'avoir autant parlé. Et puis elle m'a fait vider mon sac sur les marches de Trocadéro. Et puis elle a dit, et avec tout ça, vous me connaissez? Et en fait, c'est très vrai ce qu'elle voulait dire. Ça veut dire que non.
On écoute un extrait de ce film de Varda.
Cette sorte de perfection des statues me procure un sentiment neutre. Ce que j'aime dans un corps, homme ou femme, c'est avec ou peut-être parce qu'il y a des défauts. J'aime des seins trop gros, des hommes trop maigres. Je suis émue par les cicatrices. J'aime le fait que le temps laisse des traces. J'aime des bleus. J'aime les veines, le sang qui gonfle. Enfin, la perfection m'emmerde.
Et puis la beauté, c'est un scandale. Alors sur la place publique, ça excite les types graffiteurs.
Oui, mais enfin les types qui dessinent les bouts des seins et puis les poils sur les sexes des filles, sur les statues, mais c'est... Moi, je crois que c'est pour les rendre plus humaines. Moi, je crois que les seins des filles, ça se voit dans les yeux. Il y a une sorte de brillance dans les yeux des filles qui en ont. Et puis, celles qui en ont pas, il y a une sorte de... Excusez-moi, dans les yeux.
Quand j'avais 16 ans, j'étais plate. J'étais quand même consternée. Parce que les seins, tant attendus, ne sont pas venus. Alors, avec cette complexe, j'ai filé dans les boutiques acheter du coton, du mousse pour remplir des soutiens-gorge pour mettre en dessous mes pulls. Parce que je croyais que les seins étaient indispensables pour plaire. Et puis, heureusement, un jour, j'ai rencontré Serge qui m'a dit que pas seulement il n'aimait pas ça, mais il avait peur des seins. Que pour lui, les filles plates, enfin, qu'il avait dessiné des filles comme ça quand il était aux Beaux-Arts. Et j'ai vu que j'étais une sorte de critère de quelque chose de désiré par lui. Alors ça allait. Enfin, c'est pas totalement disparu, ce désir de les avoir, parce que quand je vois des filles sur les plages avec des gros nichons, bah, je trouve ça tellement joli quand ça fait flip-flop, flip-flop. Une sorte de mouvement indépendant que je n'aurais jamais. Alors j'ai un petit regret. Enfin deux.
Un regret. Jane Birkin, vous êtes actrice, réalisatrice et aussi passeuse de cinéma. Plusieurs années plus tard, je voudrais vous remercier, Jane. Je vous ai entendu un jour dans une émission parler d'un film, et ce film est devenu un de mes films favoris, et ce metteur en scène aussi, c'était Head On de Fatih Akin.
Oui, oui.
C'est fou l'enthousiasme que vous arrivez à faire passer. Vous aimez autant les films que vous faites que les films des autres.
Ah oui, oui, oui. J'adore aimer, j'adore quand on tombe sur ce bijou qui fait qu'on peut le gueuler partout. c'est un tel privilège d'avoir vu en avance. Je trouve que c'est votre privilège d'ailleurs, à vous
oui,
deux.
C'est vrai.
C'est d'avoir vu en avance et de pouvoir attirer les gens. Et parce qu'on. En plus, après, les gens disent « Ah, merci beaucoup ». Non, il y a une sorte de... on est récompensé quand même. C'est pas pour rien. Et Pierre est là, il m'a permis de faire quand même la première fois que j'ai pu réviser. Vraiment me... parler, quoi. En fait, vraiment parler, c'est-à-dire de ne pas être dans un film, mais de réaliser un film. Et c'était si personnel au « Pardon, tu dormais ». Et c'est Pierre qui m'a permis de le faire, parce que ça a failli passer à l'as quand même. Hein, c'est vrai, c'est vrai.
Mais c'était pas évident, quoi, parce que c'était très dialogué, c'était quand même sur fond de névrose, quoi, un petit peu. Et donc, voilà, mais c'était formidable. Mais c'était tellement formidable ce rapport entre cette femme et cet homme, et toujours recommencé, toujours détruit, toujours en éveil. Moi, j'ai trouvé aussi bien le scénario que tu as écrit, et le film que tu as réalisé à son époque, en 92 ou 93, passionnant, passionnant. Et très différent de ce que faisait Jacques Doyon, même si c'était inspiré aussi par Jacques Doyon.
En fait, il m'a permis de savoir, parce que sinon j'aurais pas su, que les plans séquences existaient.
Oui.
Parce que ça, c'est fabuleux, les plans séquences. Oh, c'est formidable, parce que... Parce que c'est, tu tiens la respiration, ça continue encore, ça continue encore, et tu fais trois scènes dans un, et c'est, il faut que ça soit parfait jusqu'au bout,
oui.
Parce que si quelque chose foire au milieu, c'est foutu. Donc c'était cet amour pour les plans séquences était vraiment Jacques, et puis je voulais faire un court-métrage. Et Jacques a dit, sois vraiment courageux et fais en temps réel.
Il a eu raison, vraiment. Oui.
Pierre, vous avez bien sûr révélé ce film et cette metteuse en scène qui est Birkin, mais aussi bien d'autres. Alors, on va dire un tout petit peu votre parcours, votre vie qui est incroyable, mais bon, un homme d'institution, secrétaire d'État à la culture, au Centre national des lettres, au Centre Pompidou, au CNC, et de 91 à 2003, directeur de l'unité fiction d'Arte, soit plus de 300 films et mini-séries produits. 90, une décennie morose, dit-on dans la présentation de l'article oui. Qui vous est dédié à la Cinémathèque, parce que mauvaise fréquentation et baisse de la part des films français.
Oui.
Ça n'allait pas bien.
Ça n'allait pas bien, et puis surtout, des cinéastes ne pouvaient plus travailler. Des cinéastes comme Doyon, comme Garrel, comme Jacquot... C'était très difficile de monter un film financièrement. C'était considéré comme trop auteuriste, intéressant un public très limité. Voilà.
Et en plus, à l'époque, les gens de cinéma snobaient pas mal la télé.
Oh, beaucoup. Alors là, la télévision, c'était le lumpen prolétariat,
oui,
quoi.
Hein, ouais.
Et le cinéma, c'était l'aristocratie.
Exactement. Donc... Et comment vous avez réussi à mélanger le lumpen et les aristos?
Par échange. J'avais connu plusieurs cinéastes au CNC, au Centre National du Cinéma, dans les commissions d'aide sélective, aussi bien avant sur recette, etc. Et ces cinéastes, je ne les ai pas quittés. Je les ai sollicités. Eux, parfois, m'ont téléphoné. Et je me suis dit, mais voilà, il faut travailler avec ceux que j'ai connus, parce que les producteurs et les réalisateurs de télévision à cette époque étaient quand même assez pour le héros récurrent, la série conventionnelle, traditionnelle, histoire de famille ou de maison de famille.
Il y en a encore.
Il y en a encore. Et ça, je me suis dit non, quand même, il faudrait peut-être avoir proposé un autre point de vue, quoi. Et ça s'est fait par échange, voilà. Et de temps en temps, ils sont venus comme sur une île, et puis ils sont repartis vers le cinéma. Et ça c'était formidable.
Exemple, là, je déposé Pascal Ferrand, qui est une date très importante. C'est avec les élèves de l'école de Strasbourg.
Exactement, du Théâtre National de Strasbourg. On avait fait avec Jean-Louis Martinelli une proposition de collection sur les thèmes voulus par les réalisateurs. Il n'y avait pas de thème imposé, mais exclusivement avec des élèves du Théâtre National de Strasbourg.
On écoute un extrait.
Yvan, il y a eu un coup de fil pour toi.
Où ça?
Pas maintenant, tout à l'heure. J'ai entendu le répondeur se mettre en marche.
Il y a combien de temps?
Je sais pas, un quart d'heure. Ça vous gênerait pas de me laisser la chambre ?
Bonjour, c'est un message pour Yvan. C'est Denise. Malheureusement, je vais pas pouvoir venir à la fête. J'aurais bien aimé te parler deux minutes. Tu es pas dans le coin par hasard ? Non, j'imagine qu'en plus on n'entend rien avec la musique et tout. Donc je sais pas très bien quand tu auras ce message. Je suis à la gare, là. J'ai un train qui part dans 10 minutes, en fait. J'aurais dû t'en parler avant, mais je me disais que si j'en parlais, j'oserais plus le faire. Enfin bon. Et aussi, peut-être que... J'avais peur que tu essaies de me retenir. Que tu essaies pas de me retenir. Enfin... J'ai fait un rêve avant-hier où je me suis vue à Paris, marcher dans les rues à Paris. Donc je me suis dit que si j'arrivais à me voir là-bas, même en rêve, c'est que ça doit être possible. J'essaie de pas laisser trop de blanc parce que je sais que ton répondeur coupe quand on essaie de trop. Je te rappellerai dès que j'aurai un endroit où me joindre. Je suis désolée pour ce soir, mais bon, c'est... Ça tombait mal. Je t'embrasse. Je t'embrasse.
Pierre Chevalier, pardon d'utiliser ce terme, mais j'ai l'impression que vous étiez un stakhanovice de la production à Arte, parce qu'il y avait effectivement une œuvre à l'antenne tous les 10 jours.
Oui, c'est vrai.
Et c'est dingue.
Oui, je sais pas comment on a fait. Vraiment, je sais pas. Là, je comprends pas, je serais incapable de le refaire. C'était évidemment 14-15 heures de travail par jour, ouais, tout le temps.
Pendant 12 ans.
Et puis en termes de budget aussi.
Alors en termes de budget c'est aussi, même... mais le pacte un peu avec les réalisateurs, c'était liberté.
La pauvreté.
Et... budget vraiment minimal, ouais, ouais. Mais voilà, c'était une sorte d'alliance, quoi. Et c'est vrai que Pascal Ferrand a tourné avec un budget, mais vraiment 1,5 million.
Bon, on parle de Pascal Ferrand, il y en a eu beaucoup d'autres, des jeunes, et puis vous avez, moi j'ai pas peur des mots, relancé complètement André Téchiné,
ah, oui,
avec
oui.
Les Roseaux Sauvages.
Oh, j'allais embarquer ce film à Sarajevo.
Ah oui.
Et
ah, chouette alors.
Après la guerre, bien sûr.
Bien sûr.
Et je, parce que j'avais une telle passion pour ce film, je l'avais peut-être vu 3 fois. J'ai embarqué en petit sifflet.
Ah bon?
Ah bah oui, très macho là-bas. J'avais embarqué le film après la guerre avec toutes les jeunes qui étaient dans la salle. Ah, j'étais très étonnée. Et moi, j'avais une telle passion pour ce film, j'étais sûre que je conquérirais les cœurs de, des garçons. Ah. Non, les filles, oui.
Les filles, oui, mais les garçons...
Les garçons n'osaient pas le dire, en tout cas.
Vous vous rappelez, Jen, de cette scène géniale où il sort de sa nuit d'amour, il se balade, il mange son croissant.
Oui, oui, oui.
Vous êtes fière de ça, vous êtes Pierre Chevalier.
Oui, oui, très, vraiment, ça, j'aime beaucoup ce film. André, là aussi, à ce moment-là, lui pouvait tourner, hein, il était... Oui. Mais c'est vrai que ce film, voilà, il a un petit peu hésité, et puis on l'a affirmé à fond, et voilà.
Mais c'était des films que tu as fait dans un contexte de souvenirs de jeunesse.
Oui, c'est ça. C'était une collection de 60
c'est ça.
Minutes.
Ouais, on va partir,
on va quitter. Non, mais c'est super, c'est allons-y.
Oui, oui, c'était...
La collection, l'idée de collection.
L'idée de collection, elle n'est pas venue de moi. Elle est venue de l'extérieur, comme beaucoup de propositions de l'unité. Elle est venue de Chantal Poupeau et de 2 producteurs, qui étaient Georges Benayoun et... voilà, bon, l'autre, j'ai mangé. Et c'était... la proposition est arrivée sous forme de petites feuilles volantes. Il y avait une définition de l'adolescence par le petit Larousse. Il y avait un paragraphe de Lacan. Et il y avait des propositions de réalisateurs et de réalisatrices. Voilà, 3 finalement sont restés, parce que les autres ont eu d'autres projets, etc. Et André Téchiné a été le premier à dire oui. Mais quand on s'est parlé, il m'a dit « Pierre, je veux faire de la télévision et du cinéma. Il ne faut pas que cet objet m'empêche de faire du cinéma. »
Autre cas de figure, on ne va pas entrer dans la polémique cinéma-télévision.
Oh non.
On va écouter ce bel extrait de Marius et Jeannette, parce que ça, c'est une sacrée date aussi.
Ah oui.
Une sélection à Cannes, certains regards, une ouverture populaire énorme.
Oui.
Et cet extrait merveilleux, Gérard Milan, Ariane Ascaride.
Ma maison va tomber en ruine si je ne mets pas une couche de blanc sur les murs. Elle est fermée depuis 6 mois, cette usine. Tout le monde les a oubliés, ces malheureux pots de peinture. Si je les prends pas, ils vont pourrir sur place. Tu pourrais me les donner ?
Mais elle est barjou. C'est barjou quoi? Tu crois qu'ils sont à moi? C'est pour la peinture. On me paye pour les garder. Donne-moi tes papiers.
Mes papiers?
Oui, tes papiers.
Et en plus, tu vas me dénoncer aux flics. Garde tes peaux et lâche-moi. Elle est pas à toi, cette usine. Tu viens de me le dire. J'ai pas de sous pour la peinture. Je vais pas aller en tôle pour ça. Je suis pas la fille de Jean Valjean, moi. Alors je te laisse tes peaux et je me barre.
Dis, arrête-toi un peu de parler et donne-moi tes papiers, je te dis.
Fasciste.
Quoi? Qu'est-ce que tu as dit?
J'ai dit fasciste! Tu es un ouvrier comme moi, non? Qu'est-ce que tu as à foutre cette peinture? Merde! Heureusement que je suis pas arabe, sinon tu m'aurais tiré dessus!
Tais-toi! Prends tes papiers, va-t'en! Hein.
Ben, c'est chacun.
Chut! Chut! Tais-toi, va-t'en et en silence! En silence!
Un succès énorme à l'arrivée, Pierre Chevalier, ce
oui,
film.
Oui, ça a été un succès imprévisible, d'ailleurs. Oui. Hein, vraiment, aussi bien Guédiguian que Gilles Sandoz que moi, on est un peu tombé des nues quand on a vu ce succès dès le Festival de Cannes. Je crois que ça, en salle, ça a dû faire 2 700 000 spectateurs.
Parce que c'était la continuité d'un univers qui existait déjà.
Voilà,
tous les films de Guédiguian précédents, il y avait Dumas et Jeannette. Donc c'est la surprise est venue de là.
Oui.
Comment cet univers déjà installé, tout d'un coup, il éclate, quoi.
C'est oui, ça qui est exactement. Et c'est et là, dans Marius et Jeannette, ce qu'il y avait aussi par rapport aux autres films, c'était vraiment, un couple de la quarantaine, ouais. Des amis de la quarantaine à la télévision, on connaissait pas. Il fallait être jeune, il fallait être beau, etc. Ça c'était très, très pertinent et très dans l'idée et l'inscription vraiment, de l'actualité politique à ce moment-là, la montée du Front National, oui. De l'extrême droite dans le Sud. Ça, voilà, c'était nouveau, si je puis dire.
Je terminerai par ce livre, Quelle vie que la vôtre, Pierre Chevalier, raconté donc dans L'homme des possibles, des entretiens avec le producteur Philippe Martin chez Segui Arte Éditions. Boulez, Deleuze, Arte, Balzan, les auteurs, les combats d'un homme complexe, vous qui se dévoile peu, mais de façon mystérieuse et intense. J'ai été très ému par ce récit d'une vie consacrée aux artistes et à la création. Vous serez à la Cinémathèque juste après Jane Birkin. Jane, pour vous, c'est jusqu'au 11 février. Et Pierre Chevalier, à partir du 15. On se retrouve pour parler des films de la semaine après Saun Conrad.
I'm
Laurent, qu'est-ce qui a marché ce mercredi?
Alors, très curieusement, je crois que personne ne s'y attendait. La La Land, voyez-vous. Et oui, 100 000 spectateurs le premier jour, c'est énorme. Pierre Chevalier n'est pas encore allé parce qu'il n'a pas envie de des files d'attente trop longues pour aller voir le film, mais il va y aller. Voilà. En seconde position, on en parlera tous en scène. Et en troisième, la comédie française, L'Ascension.
La La Land, Damien Chazelle. On sait qu'en France, toute réussite paraît suspecte. 7 Golden Globes et 14 nominations aux Oscars. Pour cette merveilleuse comédie dramatique musicale et déjà des bémols à droite, à gauche pour le film, pourtant moderne et éternel, enchanteur et mélancolique. Un salut à ses pairs, Demi, Minelli et les autres, très brillamment conduits, racontés, réalisés et au bout du chemin, une réflexion sur la vie et le cinéma et sur la solitude de l'artiste et son rapport au monde et au succès.
Non, il n'y a pas de réserve à avoir. Il faut courir, voir La La Land, point barre, et puis être sous le charme et le revoir aussi, souvent.
Lumière. Ouais, Lumière, point d'exclamation, l'aventure commence. En 1895, les frères Lumière, on le sait, invente le cinématographe et tourne parmi les tout premiers films de l'histoire du cinéma, mise en scène, travelling, trucage ou remake. Ils inventent aussi l'art de filmer. Ce sont des petits chefs-d'œuvre de 50 secondes chacun, commentés par Thierry Frémaux. Là, les critiques sont unanimes, surtout ses premiers pas, ses premières fois au cinéma, Laurent.
Oui, moi j'ai deux petits regrets. Pour commencer, d'abord le fait qu'on ne voit pas ce qu'on voyait, ce que les spectateurs parisiens de la grande expo Lumière qui a eu lieu l'an dernier voyaient, c'est-à-dire le fait d'avoir remis la première projection. C'est-à-dire, on pouvait voir sur grand écran les 10 premiers petits films tels que les gens de 1895 ont pu les voir. Je trouvais ça très émouvant.
Vous pinaillez là.
Non, je pinaille pas parce que non, c'était un bel exercice de cinéphilie. La preuve, c'est que c'était à l'exposition et que ça marchait très bien. Et deuxièmement, parfois, un peu, je trouve les commentaires un peu trop dithyrambiques. C'est-à-dire, à force de nous dire que il y a qu'une façon de placer la caméra, c'est une théorie. Je connais cette théorie, je la respecte, mais je pense que ça n'est qu'une théorie. D'avoir comme ça une dévotion. Et en même temps, comment ne pas effectivement comprendre qu'on est complètement sous le charme? C'est comme si on allait, pour nous cinéphiles, c'est comme quand les gens qui aiment la peinture vont à Lascaux. C'est-à-dire qu'on découvre ça, on découvre. Oui, c'est cette généalogie. Donc ça, c'est merveilleux. Allez dans une salle, mettez-vous dans un fauteuil et redécouvrez ce que nos ancêtres, premièrement cinéphiles, ont fait et ont vu, ont découvert. C'est magique, c'est merveilleux. Lumière avec un point d'exclamation.
L'aventure commence. Oui. Tous en scène de Garth Jennings. Donc, c'est un Américain, mais fabriqué à Paris dans les studios franco-américains Illumination. L'histoire, la voilà. Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre. Jadis illustre, mais aujourd'hui tombé en désuétude, qui va, pour sauver son théâtre, organiser une compétition mondiale de chant. 5 candidats sont retenus. Une souris, un jeune éléphant timide, une truie, mère de famille débordée, un jeune gorille délinquant et un porc-épic punk. Bref, une starak de l'animation ou un peu The Voice. Le concept est drôle. Les castings ratés notamment. Une fois posé ce concept, il perd un peu de son intensité pour s'orienter vers une histoire inutile de hold-up, Laurent, et se réveille enfin dans le troisième tiers.
Oui, alors, sauf erreur de ma part, ça dure quand même 1h50, c'est un peu longué. Alors, c'est quand même gonflé, hein, tous en scène. Faut quand même être gonflé pour une comédie musicale avec un cochon. Reprendre ce titre-là, quand même. Bon, on aurait pu faire un petit effort pour aller ailleurs. Non, c'est dommage parce qu'en plus, il y a une sorte. Alors, l'anthropomorphisme, il est évidemment revendiqué, mais tous ces animaux parlent de jeunes, et ça, c'est très, très agaçant. C'est-à-dire, c'est une façon de faire vraiment, notamment dans la version française, mais c'est pareil dans la version originale américaine. C'est pareil. Les gags sont un petit peu lourds, un petit peu répétitifs, et justement, cette durée beaucoup trop longue pour ce genre de film.
Ces gags sont tous dans la bande-annonce. Ne regardez pas la bande-annonce avant d'aller voir le film.
C'est une bonne recommandation, on a fait.
Genre opération de racolage. Compte tes blessures, un premier film signé Morgane Simon, autour de Vincent, 24 ans, chanteur d'un groupe de vraiment hard rock, qui a déjà tatoué la moitié de son corps avec sa gueule d'ange et son regard incandescent. Le monde lui appartient, mais l'arrivée d'une nouvelle femme dans la vie de son père réveille des tensions. Voilà pour les résumés académiques de ce film autour de l'incommunicabilité entre un père et son fils. Et on se dit finalement que le réalisateur n'avait pas vraiment besoin ni des tatouages, ni de la musique hard rock pour exprimer cette colère, cette violence et cette confrontation père-fils maladroite, intense, entre deux sacrés comédiens, le jeune Kevin Azaïs, le héros des combattants et Nathan Wilcox. Sans oublier cette femme entre les deux, l'actrice québécoise Monia Chokri, révélée par Xavier Dolan et qui apporte crédibilité et même vérité à cette histoire.
Oui, je pense que c'est un, sans trop avancer, que c'est un scénario que Pierre Chevalier aurait pu produire pour Arte dans ses grandes années lumineuses de production. Moi, il y a une réserve, mais hélas, je ne vais pas en parler, parce que sinon, je serais submergé de courriers. C'est effectivement la fin, donc je ne fais pas de spoiler, mais elle est pour moi, vraiment, oui, mais je vais dire quand même qu'elle est pour moi très embêtante, et c'est dommage, parce que sur scénaristiquement parlant, il me semble qu'elle plombe l'ensemble. Voilà. Mais allez voir quand même ce conte des blessures, magnifique et joli premier film.
Pour moi, elle est folle et crédible à la fois.
Bien, bien.
Tempête de sable, Elit Zegzer, une réalisatrice israélienne qui évoque, c'est un peu une tragédie grecque, hein, cette histoire, Laurent, dans le désert d'une tribu d'un village bédouin en Israël, où la deuxième femme, où la première femme d'un homme va organiser les noces avec sa deuxième femme, pendant que la fille tombe amoureuse d'un garçon, mais qu'elle ne pourra pas épouser.
Oui, c'est ça. Alors, c'est un film qui ne manque pas de qualité, hein. Franchement, il faut le dire. Le seul petit bémol que j'ai, moi, la réserve, c'est que il faut quand même voir l'environnement. Ben, il vient après un premier film qu'on a beaucoup aimé ici, qui s'appelait Eddie. Ouais. Et il vient juste avant un film dont on vous parlera au moment de sa sortie, parce qu'on aime aussi beaucoup, qui s'appelle Noces au pluriel. Des mariages forcés, ça fait beaucoup, quoi. Il y a un moment, on se dit, bon, on pourrait peut-être essayer de montrer d'autres réalités. Alors, je sais bien que, pris séparément, aucun des trois réalisateurs n'est comptable de ce télescopage de scénarios et d'histoires. Mais voilà. Disons que dans le lot, c'est peut-être, hélas, quand même, malgré tout, le plus faible des trois, à mon sens, ce Tempête de sable qui vaut quand même le détour et qui vaut d'être vu.
Voilà. Sur Arte, sous Pierre Chevalier, ça aurait pu s'appeler Marion Lay.
Par exemple, voilà. Il l'aurait faite.
Les confessions de Roberto Ando. Alors ça, c'est un drôle de sujet. Quelque part en Allemagne, les dirigeants politiques du G8 et le directeur du FMI se réunissent en vue d'adopter une manœuvre secrète aux lourdes conséquences, mais tout ne va pas se dérouler comme prévu à cause du décès du directeur du FMI. Il y a mon acteur préféré à l'intérieur, c'est Tony Servillo, Laurent.
Et oui, mais ça y est, on le tient. Le nanar de la semaine, il est là, c'est les confessions. Mais si, on le tient, faut le retenir, hein, c'est pas tous les jours fête. Donc, effectivement, alors c'est du sous Sorrentino, ce qui, dans ma bouche, vous le savez, n'est vraiment pas un compliment, mais je dis bien du sous, avec palais de luxe italien, atmosphère un peu étrange. En fait, c'est une banale histoire la sauce avec Agatha Christie façon les dix petits nègres sur la finance internationale. Et là-dedans, dans un casting XXL censé refléter effectivement la haute finance internationale, ils en font des tonnes, Daniel Auteuil, Marie-Josée Croze, Lambert Wilson, il y a, hélas, parce qu'on adore cet acteur, Tony Servillo, avec sa robe de bure, il joue un moine, une sorte de Saint-François perdu au pays de la finance internationale et de l'euro, et il regarde tout ça aussi atterré que nous le sommes en regardant le film. Ça s'appelle Les Confessions.
Aidez-moi, Jane, vous aimez beaucoup Tony Servillo, bien sûr, chez Sorrentino.
Mais il n'y a pas à aider, c'est un grand acteur.
Non, vous n'allez pas m'aider, donc non.
Je suis pas sûre que j'aime Sorrentino.
D'accord. Pour moi, c'est l'équivalent d'un piccoli italien. Pierre Chevalier, vous n'allez pas m'aider non plus.
Non, je ne sais pas.
Bien, on va passer à autre chose.
C'est bien essayé.
On va parler d'un ovni dans l'industrie iranienne, si on peut parler d'industrie du cinéma, qui s'appelle Valley of Stars, de Mani Haghighi, Laurent. Ouais. Ça se passe en 65, c'est le lendemain de l'assassinat du premier ministre iranien, l'agent Babak. Hafizi est envoyé par la police secrète sur l'île de Keshm, à l'est du golfe Persique, pour enquêter sur le suicide suspect d'un dissident en exil. Et parcourant la mystérieuse vallée des étoiles accompagné d'un géologue et d'un ingénieur du son, Babak va découvrir que ce lieu renferme bien des secrets. Raconté comme ça, ça a l'air presque simple. Alors, pourquoi apporter tant de complexité et nous perdre en route? Je me suis jamais autant ennuyé à un film depuis longtemps.
Longtemps. Oui.
Bah, si c'est un ovni... Et même mal physiquement, même.
Oui, c'est pas faux. Si c'est un ovni, il y a un crash. Hein. Il se crash gravement sur nos têtes, quoi, de spectateurs atterrés. Il y a une chose. Il faut juste retenir une chose quand même, une image.
L'acteur est très beau.
Un cargo dans le désert. Un cargo échoué dans un désert. Ça, c'est une idée de décor formidable, merveilleuse, mais le reste ne tient absolument pas la route.
On va finir avec une reprise que tout le monde aime, je suppose, c'est Le Roi de cœur de Philippe de Broca.
1966, Philippe de Broca, bide retentissant, il faut le dire. Il faut toujours noter que les grands films ont fait parfois des grands bides. Mais on est en 1918, un asile d'aliénés. C'est écrit par Daniel Boulanger, c'est mis en musique par Georges Delerue, excusez-moi. Et il y a juste Michel Serrault, Jean-Claude Réali, Pierre Brasseur qui jouent. Et croyez-moi, c'est un bonheur absolu. Alors le film sort en salle, le film sort aussi en DVD, donc vous n'avez aucune excuse pour rater Le Roi de cœur.
Deux cadeaux pour terminer pour nos invités. On commence par...
Oui, Jane Birkin, je vais vous offrir offrir le livre de quelqu'un que vous connaissez, peut-être, j'en suis sûr que oui, Melville Poupeau, Voyage à Film City, l'acteur Melville Poupeau, formidable, qui continue d'écrire et de nous ravir avec des bouquins. Là, en l'occurrence, il est publié ce Voyage à Film City chez Pauvert. C'est le récit d'un film qu'il a tourné en 2012 en Chine. Voilà. Et notamment pour parler des pandas dépressifs, il est formidable, Melville Poupeau.
Mais il est formidable acteur, être humain aussi. Voilà.
Et autre joli livre de cinéma, on est gâté en ce moment dans l'édition du cinéma, pour vous, Pierre Chevalier, c'est Au travail avec Eustache, sous-titre Making of de Luc Béraud. Il a travaillé avec Eustache comme assistant, ce merveilleux réalisateur qu'est Luc Béraud, au moment de, tenez-vous bien, La maman et la putain, Mes petites amoureuses, c'est une sale histoire. C'est-à-dire qu'il a travaillé sur trois chefs-d'œuvre, c'est publié aux Actes Sud, c'est bourré d'anecdotes et bourré d'empathie pour ce personnage fantasque qu'était Jean Eustache, et avec la malice et la distance qu'il convient pour traiter ce genre d'ouvrage. Voilà.
Merci Jen B à la Cinémathèque jusqu'au 11 février. Cet après-midi à 14h30, une rencontre animée par Frédéric Bonneau, suivie de L'amour par terre de Rivette, bien sûr. Pierre Chevalier, merci aussi à vous et votre rétro du 15 février au 8 mars à la Cinémathèque. On va se dire au revoir sur vos deux voix génériques. Jen et Pierre, je vous fais signe.
C'est une émission inspirée par tous les films du cinéma.
Il y a des réalisateurs et des auteurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et producteurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantez a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Martine Messonnière est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Anne Beinfeld.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Pierre Chevalier, j'y étais.
Et moi, Jane Birkin, j'y étais.